Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Point de vue. À l'émission aujourd'hui, la Ville de Québec prend le taureau par les cornes et investit $1 million pour soutenir les commerçants du centre-ville.
C'est une somme d'annonces. C'est une somme d'annonces qui fait le point de bascule.
Le maire de Shawinigan va pédaler 1000 km au nom de la persévérance scolaire.
Moi aussi, des fois, j'ai peur. Puis moi aussi, des fois, il faut que je persévère. Puis moi aussi, j'aime pas quand il pleut. Mais malgré tout, mon objectif, c'est de persévérer. Puis de me faire la démonstration, puis de faire la démonstration aux autres que c'est en persévérant qu'on devient meilleur.
On se rend en Basse-Côte-Nord pour vous parler d'un programme de translangage à l'école. Ça mange quoi au printemps? Frédéric Lévesque lève le mystère.
On enseigne en français. On a des périodes de translanguaging où est-ce qu'on peut écrire une phrase en français, on va vraiment travailler la structure de la phrase en français, puis là, on va faire la même chose automatiquement en anglais.
Le nombre de cas de rougeole est en constante augmentation au Manitoba et ailleurs au pays. Les autorités médicales sur le qui-vive lancent l'alerte.
C'est une maladie qui est très, très, très contagieuse, parmi les plus contagieuses qu'on connaît.
Et en Nouvelle-Écosse, on tente de préserver la mémoire des anciennes et futures éditions du seul journal francophone pan-provincial de la province.
Si on décide de préserver les archives physiques du courrier, on veut que ça se fasse dans un lieu unique qui soit acadien, francophone, pour en avoir la pleine maîtrise.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour et bienvenue à l'émission. Boris Chassagne avec vous pour la prochaine demi-heure avec nos journalistes IJL postés en Nouvelle-Écosse, au Québec et au Manitoba. On vous amène d'abord sur la Basse-Côte-Nord à Tête à la Baleine pour vous parler de translangage à l'école, un concept mis à l'essai dans les classes du primaire et qui est même au cœur d'un programme scolaire adapté au bilinguisme de la Basse-Côte-Nord. Notre prétexte étant celui des jours de la valorisation du personnel scolaire qu'on souligne le 27 mai dernier. L'occasion pour nous, donc, de prendre les nouvelles d'un projet pilote lancé en 2023 dans une école du Centre de services scolaires du littoral. Depuis 2 ans, les enseignantes Julie Robichaud et Isabelle Barriot contribuent au développement d'un programme, de ce programme de translangage chez les élèves de première et deuxième année du primaire. Les cours sont dispensés en français, alors que l'anglais est la langue maternelle de la majorité des jeunes de l'école Monseigneur Schaeffer. Frédéric Lévesque, qui nous quitte au moins pour quelques mois, nous a ramené ce qui suit.
Je prends les mails. Est-ce qu'il y a des élèves qui se rappellent c'est ou c'est quoi?
Oh, bien. It is.
Oh, tu te rappelles que c'était it? It is. Puis là, comment on a su que it is?
Dans les classes de première et de deuxième année de l'école Monseigneur Schaeffer à Blanc-Sablon, deux professeurs, Isabelle Barriot et Julie Robichaud, travaillent depuis 2023 à intégrer au cheminement scolaire des jeunes un programme novateur pour la région, un programme de translangage.
En gros, pour nous, le translanguaging, c'est construire la possibilité dans l'esprit des élèves que l'anglais est accepté puis qu'il peut être utilisé comme outil à leur compréhension et à leur expression.
Le 27 mai, à la journée de valorisation du personnel scolaire, nous en profitons pour faire le suivi de cette initiative adaptée à la réalité bilingue de la Basse-Côte-Nord. Isabelle Barriot et Julie Robichaud enseignent depuis environ 2 ans à Blanc-Sablon, là où les cours se donnent en français, mais où les élèves sont majoritairement anglophones. Isabelle nous parle davantage de ce qu'est le translangage.
C'est l'utilisation de les deux langues pour construire la langue qui n'est pas maternelle. Fait que, tu sais, dans le fond, la majorité de nos élèves, ils parlent en anglais, mais nous, on enseigne le français à ces élèves-là. Fait qu'on utilise l'anglais dans notre enseignement du français pour soutenir l'enseignement en français par leur langue maternelle.
Le projet pilote de translangage bénéficie depuis 2024 de l'accompagnement à distance d'Ouda Nasreddine, une professionnelle formée en psychologie du développement de l'enfant et en éducation spécialisée. Elle offre des explications au personnel sur les processus d'apprentissage linguistique et sur le bilinguisme. Elle présente aussi aux enseignantes certaines ressources complémentaires pour les soutenir dans leur planification de cours. Le translangage s'est donc ajouté à la grille horaire comme une matière supplémentaire, en plus du français, de l'anglais et des autres cours, comme le détaille Julie Robichaud.
On enseigne en français toute la journée. Ici et là, ça se peut qu'on verbalise en français, en anglais, juste rapidement des petits concepts ici et là. Mais en plus de ça, on a des périodes de translanguaging où est-ce que, par exemple, on peut écrire une phrase en français, puis là, on va vraiment travailler la structure de la phrase en français, puis là, on va faire la même chose automatiquement en anglais. On va comme mélanger les deux ensemble. Ensuite de ça, on peut lire un livre en français, puis simultanément, là, la page d'après, on lit en anglais. Fait que là, on mélange les deux, puis là, encore une fois, on fait remarquer les mots, les
tournures de phrases,
le vocabulaire, s'ils se ressemblent, s'ils se ressemblent pas.
Des personnages qui sont différents.
Oui, la façon qu'ils s'expriment, des fois, en anglais, ils ont juste trois mots, puis en français, on a cinq mots pour la même phrase. Fait qu'on leur fait tout remarquer ça, mais ça, c'est vraiment dans la période de translanguaging.
Les enfants adorent ça, faire ça.
Oui.
Est-ce qu'il y a des élèves qui savent c'est quoi le verbe être en anglais?
Non.
How do we say that? Did you see? I'm sure you see. You've seen it with Madame Schadler. Mm-hmm. Luke Leto?
Le verbe être, c'est to be.
Bravo! Le verbe être en anglais is the verb to be.
Be.
To be. Yes.
To be.
Leto!
Les techniques utilisées dans le cours de translangage sont aussi mobilisées par les enseignantes dans d'autres cours, comme en mathématiques. Cela faciliterait l'apprentissage des jeunes.
En mathématiques, le meilleur exemple, c'est trouver un nombre avant ou après. Mm-hmm. Puis on a beaucoup de difficultés avec ça, mais là, si on dit « before and after », ça peut être aussi simple que ça, le translanguaging. OK, je trouve un nombre qui vient avant, « before ». Puis là, on fait ce petit lien-là entre les deux. Puis là, hop, ça ouvre une petite lumière dans leur cerveau, puis ils sont comme « OK, là, je comprends ».
Plusieurs constats positifs sont faits par les enseignantes depuis qu'elles travaillent avec le programme de translangage.
C'est plus flexible, puis aussi, ça permet à l'élève, on remarque depuis 2 ans que ça enlève beaucoup de pression sur l'enfant, parce que souvent, on remarquait que les enfants, ils cherchaient leurs mots, puis ils ne se sentaient pas à l'aise de nous donner les réponses, ou ils ne se sentaient pas à l'aise d'essayer parce qu'ils savaient qu'ils ne connaissaient pas les mots en français. Ça fait que là, on leur permettait, OK, mais dis-moi là en anglais. Puis là, ils pouvaient nous s'exprimer dans sa langue maternelle. Puis ensuite, nous, on pouvait faire le lien. Puis là, ils réalisaient, OK. Ils réalisaient qu'ils savaient peut-être sans vouloir le dire lui-même. Puis s'ils ne savaient pas, mais au moins, ça permettait de bâtir ce lien entre ces deux mots-là, là, en français puis en anglais.
Isabelle va dans le même sens que sa collègue Julie quant aux effets bénéfiques du programme sur les élèves.
Pour une fois, tu sais, les enfants ont le droit de questionner la langue, puis on amène un peu ce réflexe-là de questionnement de la langue. Fait que là, souvent, les enfants restaient dans leur
incompréhension,
puis maintenant, spontanément, ils vont souvent dire « Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? » Fait que là, c'est là où est-ce qu'on va utiliser l'anglais. Puis là, si ça ne fonctionne pas encore, tu sais, c'est comme une stratégie pour les aider à comprendre tout ce qui se passe là, dans leur vie scolaire. Là. Mais par exemple, dans les lectures interactives comme ça, surtout, là, où est-ce que des fois, il y a des mots très complexes. Là, puis l'utilisation d'anglais permet ça.
Les besoins en matériel, le temps à prévoir pour la planification, la concertation, la formation, l'aisance dans les deux langues nécessaires de la part des personnes enseignantes et les remaniements de grilles horaires pour y ajouter le cours de translangage font en sorte que le programme ne s'est pas étendu à d'autres années scolaires. Pour l'instant, donc, le programme n'est accessible qu'aux élèves de première et de deuxième année.
C'est vraiment, vraiment important à cet âge-là de développer le vocabulaire. Puis tout ça, puis étant donné, comme Isabelle a dit, c'est faible dans les deux langues, donc je pense que ça c'était bien de commencer en première puis en deuxième, là, pour les aider pour les années à venir.
Les professeurs de l'école Monseigneur Scheffer ont pu aller présenter le fruit de leur travail sur le programme de translangage en janvier dernier à la 2e édition du colloque virtuel Nord-Côtier en éducation. Elles aspirent à voir le programme se poursuivre et se développer dans d'autres écoles qui partagent cette réalité bilingue. C'était Frédéric Lévesque à Tête à la baleine pour l'IGL. Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
On se dirige maintenant vers le Manitoba où l'augmentation des cas de rougeole inquiète les autorités sanitaires et médicales et pas seulement, la population aussi. 30 ans après avoir été éradiquée, la rougeole fait son retour au Canada. En date du 17 mai 2025, 2515 cas de rougeole ont été rapportés au Canada depuis le début de l'année, dont 1848 en Ontario. Au Manitoba, et selon les dernières données disponibles, une soixantaine de cas ont été signalés cette année déjà dans la province. Les autorités sanitaires appellent la population à se faire vacciner. Pourquoi? Ben pour limiter la propagation du virus. Notre nouveau journaliste James Olivier, posté à Winnipeg, au Manitoba, en parle avec la docteure Julie Lajoie et d'autres spécialistes dans le reportage qui suit.
Au Manitoba, les premiers cas de rougeole ont été recensés au début du mois de février. Les 5 premiers cas signalés étaient en lien avec une éclosion de l'épidémie dans la province de l'Ontario. Le virus s'est depuis propagé non seulement au Manitoba, mais aussi dans d'autres provinces canadiennes. Une situation alarmante selon Julie Lajoie, spécialiste en immunologie et virologie à l'Université du Manitoba.
Vraiment, vraiment alarmant de voir que les cas recommencent comme ça. Au Canada, on était plus de 1800 cas depuis janvier. C'est le plus haut taux de cas depuis qu'on a dit que la rougeole était éradiquée au Canada en 1998.
Avec la propagation du virus où des foyers d'infection communautaire ont été signalés, le Canada risque de perdre son statut d'éradication de la rougeole obtenu en 1998, admet la docteure Julie Lajoie.
Si les cas continuent comme ça là, pendant l'été et à l'automne, on va perdre notre statut comme quoi que la rougeole est éradiquée au Canada, donc ça va vouloir dire que le virus a repris sa forme endémique et est de retour dans la communauté et c'est vraiment pas une bonne nouvelle.
La rougeole est une maladie grave et contagieuse qui peut se transmettre facilement aux personnes qui ne sont pas immunisées. Alerte le docteur Philippe Lagacé-Winks, professeur de microbiologie médicale et des maladies infectieuses.
On enseigne souvent en médecine que la rougeole, c'est la maladie la plus contagieuse connue. Facilement, un seul cas peut engendrer une vingtaine de nouveaux cas si les individus qui ont été exposés ne sont pas immunisés contre la maladie. Alors, dans le temps, avant le vaccin contre la rougeole, on voyait des éclosions exceptionnellement rapides, extrêmement grandes, de jeunes enfants avec la rougeole. Alors, comme dans les années 70, on voyait des grandes épidémies de rougeole chez les enfants, et c'est à cause que c'est une maladie qui est très, très, très contagieuse, parmi les plus contagieuses qu'on connaît.
Le virus de la rougeole peut causer une inflammation du cerveau ainsi que des dommages permanents de son développement normal. Quoi savoir, Philippe Lagacé-Wing?
Alors, on parle souvent d'un coryza, un écoulement nasal, une conjonctivite, alors les yeux un peu rouges qui coulent un peu. Pour les enfants, ça peut paraître vraiment comme un rhume assez typique. Mais ce qui distingue la rougeole de certaines autres maladies qui sont des rhumes un peu plus bénins, c'est une éruption cutanée. Les enfants qui ont la rougeole typiquement vont développer une éruption qui commence souvent sur le cou, le visage, des picots rouges qui, au fur et à mesure que la maladie progresse dans les prochains quelques jours, commencent à se disperser vers les extrémités du corps.
La rougeole est souvent plus grave et même mortelle chez les nourrissons et les jeunes enfants. Mais les spécialistes préconisent que tout le monde peut être porteur de ce virus. La meilleure façon de se protéger consiste à se faire vacciner, explique Julie Lajoie.
Si on est non vacciné, on a reçu juste une dose, on est à risque autant comme les adultes de l'attraper et donc de le propager. Si vous êtes né comme moi vers la fin des années 70, donc quand le vaccin a commencé à être donné, vous avez peut-être reçu juste une dose. C'est important d'aller chercher votre seconde dose aujourd'hui pour être très bien protégé. Si vous avez voyagé, vous avez peut-être pas eu cette deuxième dose-là, donc vérifiez votre carnet de vaccination ou demandez à votre médecin pour être sûr d'aller chercher cette deuxième dose-là. Présentement, là, c'est ce qu'on a besoin le plus possible. Les gens qui vont chercher leur première dose, ils vont chercher cette deuxième dose-là s'ils ont eu juste une dose pour augmenter notre protection.
Face à cette nouvelle flambée des cas de rougeole, le gouvernement du Manitoba a décidé d'étendre l'admissibilité au vaccin aux nourrissons de 6 à 12 mois dans certaines régions de la province. Une décision saluée par la docteure Julie Lajoie.
Habituellement, on reçoit la première dose vers l'âge de 12 à 18 mois. Là. Et puis la deuxième dose doit être au moins séparée de 4 semaines. Mais en général, général, on dit vers l'âge scolaire, là, 4 à 5 ans, c'est comme ça qu'on offre la meilleure protection à long terme. Par contre, là, dans les situations où il y a beaucoup de cas dans certaines régions, pour protéger nos tout-petits, ici au Manitoba, la santé publique vient de déterminer que si votre enfant a 6 mois, aller chercher cette première dose-là, il est éligible.
En quoi le docteur Philippe Lagacé-Winks, il n'y a pas de traitement pour la rougeole. Le spécialiste préconise des mesures de prévention pour éviter cette maladie.
Il n'y a vraiment pas de traitement pour la rougeole. On n'a pas de médicaments spécifiques qui peut contrôler ou réduire le risque de transmission ou traiter les individus qui sont malades. C'est une maladie qui peut être très sérieuse. En effet, on compte une hospitalisation est assez commune chez les jeunes, de 1 sur 5 cas jusqu'à 1 sur 10 cas. Et les conséquences peuvent être assez sévères parce que environ 1 cas sur 20 développe une pneumonie qui est très sérieuse. Et ça, c'est la cause principale de mortalité dans les enfants avec la rougeole, c'est la pneumonie.
La rougeole est une maladie très contagieuse qui se transmet par des gouttelettes en suspension dans l'air provenant de la toux ou des éternuements. Les symptômes apparaissent en moyenne entre 7 et 21 jours après l'exposition. Une personne infectée peut transmettre le virus avant et après l'apparition des symptômes. Les premiers signes comprennent de la fièvre, une éruption cutanée, des éternuements, de la somnolence, de l'irritabilité et des yeux rouges qui peuvent évoluer vers des complications telles qu'une infection de l'oreille, des diarrhées, une infection pulmonaire ou une inflammation du cerveau. Il est conseillé aux personnes présentant des symptômes de s'isoler à domicile et d'informer leur prestataire de soins de santé en cas d'exposition potentielle à la rougeole par mesure de précaution. James Olivier, IJL, Winnipeg.
Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
La Ville de Québec avait de bonnes nouvelles à annoncer à certains de ses commerçants qui tirent le diable par la queue. La Ville de Québec et le gouvernement québécois versent 1 million de dollars pour donner un coup de pouce au commerce du centre-ville. Selon des derniers chiffres compilés par la Ville de Québec, l'artère commerciale du centre-ville affiche un taux d'inoccupation de 14 %. Plusieurs secteurs ont des taux d'inoccupation même supérieur. C'est le cas des quartiers de Montcalm avec 15 %, Saint-Sauveur avec 21 % et le Vieux-Québec avec 22 %. La Ville de Québec, il faut le savoir, compte près de 550 000 habitants. Les précisions d'Alice Zanetta à Québec.
Nous sommes définitivement sur la bonne voie. Il y a déjà des fruits qui peuvent être récoltés et il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres à récolter.
Le maire de Québec, Bruno Marchand, est convaincu. La relance économique est lancé dans le quartier Saint-Roch. La Ville et le gouvernement du Québec ont annoncé lundi 1 million de dollars pour financer davantage les projets de rénovation des commerces, leur sécurisation via l'ajout de matériel comme des caméras ou encore donner un coup de pouce aux nouvelles enseignes de la rue Saint-Joseph. Les entreprises de moins de 50 employés et les petites franchises pourraient recevoir jusqu'à 75 000 dollars plutôt que le montant initialement prévu de 25 000 dollars par projet.
C'est une somme d'annonces. C'est une somme d'annonces qui fait le point de bascule.
L'insécurité et le manque de propreté du quartier ont été dénoncés ces derniers mois par les commerçants du centre-ville. Le maire Marchand a rappelé en conférence de presse avoir octroyé en mars dernier 2 millions de dollars pour augmenter les effectifs policiers dans le secteur et ajouter des brigades de propreté. Il a rappelé aussi que le gouvernement du Québec a financé l'an dernier le projet PRISM à l'Aube-Rivière qui vise à soigner les personnes en situation d'itinérance aux prises avec des problèmes de santé mentale. La directrice générale de la Société de développement commercial Saint-Roch, Marie-Pierre Ménard, dit constater des améliorations.
Mais on reste préoccupé. Il y a encore du chemin à faire. Par contre, c'est avec des annonces comme aujourd'hui qu'on va finir par y arriver. Mais en termes de porte-fruits, les commerçants, moi, ce que j'ai comme aval des commerçants, c'est qu'au niveau de la sécurité, ça se passe de mieux en mieux. Par contre, au niveau de la vacance commerciale, ben, c'est justement avec le programme aujourd'hui qu'on va y arriver.
Pour le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve, l'aide arrive trop tard, alors qu'il accusait déjà le maire Marchand, en début d'année, de regarder Saint-Roch brûler.
Donc, les commerçants de Saint-Roch, ça fait longtemps qu'ils crient à l'aide. C'est une bonne affaire qu'on vienne avec ça aujourd'hui. Mais je trouve que c'est très peu, très tard. Moi, là, ma première sortie pour parler du fait qu'on est en train d'échapper Saint-Roch. C'est en septembre 2022. Puis là, on voit que les élections approchent, puis les annonces se multiplient.
Monsieur Villeneuve estime qu'un fonds spécial sur le vandalisme aurait dû être mis sur pied, autant pour les commerçants que les résidents de Saint-Roch. Du côté de la chef de Transition Québec, Jackie Smith, l'insécurité de Saint-Roch réside dans un problème d'accès au logement abordable.
Mais c'est pas en construisant les gratte-ciels avec les logements à complètement inabordables qu'on va revitaliser Saint-Roch. Parce que si on dépense trop l'argent sur notre loyer, on n'a pas l'argent pour dépenser et ça ne crée pas une quartier vivante. Moi, je trouve que c'est un bonbon, mais c'est pas vraiment, ça règle aucun problème que Saint-Roch vive actuellement.
Par ailleurs, pendant la conférence de presse, le ministre responsable de la région de la capitale nationale, Jonathan Julien, a réitéré la volonté du gouvernement de ramener davantage d'employés dans le secteur. Plusieurs fonctionnaires souhaitent déménager du centre-ville après plusieurs incidents. Certains sont désormais escortés par un agent de sécurité pour se rendre au travail. Une mesure temporaire, a assuré le ministre Julien. Alisa Netta pour IGL à Québec.
Le maire de la ville de Shawinigan, Michel Anger, participera pour une 8e fois au grand défi Pierre Lavoie du 12 au 15 juin prochain, une épreuve à vélo de 1000 km qui va rallier la ville de Québec et celle de Laval dans la couronne nord de Montréal. Monsieur Anger agira de nouveau comme capitaine de l'équipe de l'Union des municipalités du Québec qui en regroupe près de 1000. Le principe veut que chaque participant parraine une école et s'engage à faire la promotion de saines habitudes de vie. Le maire Anger parrainera cette année l'école primaire Félix Leclerc, une école à vocation musicale située dans le secteur de Shawinigan Sud. Les détails avec Robert Savard.
Le maire de Shawinigan a essuyé une larme devant la réception tout à fait hors de l'ordinaire qu'il a reçue lors de sa visite à l'école primaire qui accueille des jeunes de prématernelle à la 6e année en concentration musique. Monsieur Anger a découvert le vélo il y a 12 ans. À cette époque, il songeait à arrêter de jouer au hockey, il se voyait vieillir et se trouvait de moins en moins en forme. Une conférence de l'Ironman Pierre Lavoie devant les membres de l'Union des municipalités du Québec a été la mèche d'allumage. Il y a 8 ans, il a formé une équipe et s'est engagé dans le grand défi Pierre Lavoie, un parcours de 1000 km à vélo sur 4 jours. En contrepartie de son parrainage, M. Anger s'engage à remettre un don d'au moins 1000 $ à l'école Félix Leclerc pour l'amélioration de ses infrastructures sportives. La directrice de l'école primaire, Florence Dubois-Michaud, se réjouit de cette bonne nouvelle.
La vocation musicale occupe une place importante. Puis les sommes qu'on a, on essaie de les injecter à ce niveau-là. Mais le fait d'avoir un montant d'argent donné par M. le maire fait en sorte que on va aller chercher du nouveau matériel au niveau sportif, panier de basket, des jeux pour les enfants dans la cour. Donc, on est vraiment très content d'avoir été choisi.
En annonçant ce parrainage, M. Anger a répondu aux questions des élèves. Un moment qui le réjouit toujours autant.
Alors, je viens toujours les rencontrer et je vous explique que moi aussi, des fois, j'ai peur. Puis moi aussi, des fois, il faut que je persévère. Puis moi aussi, j'aime pas quand il pleut. Puis il y a toujours certains risques aussi associés à une démarche comme celle-là. Mais malgré tout, mon objectif, c'est de persévérer. Puis de me faire la démonstration, puis de faire la démonstration aux autres que c'est en persévérant qu'on devient meilleur.
L'équipe qui parcourra les 1000 km du défi sera composée, outre de M. Anger, des maires de Drummondville, Montréal-Nord et Chelsea en Outaouais. Pour être parrainée, l'école choisie doit réaliser le défi des cubes d'énergie du mois de mai. Ainsi, 55 élèves de l'école primaire relèveront le défi marathon de l'énergie le 13 juin à Notre-Dame du Mont-Carmel. Chaque élève devra courir au minimum 1 km chaque heure durant une période de 17 heures, ce qui se veut un défi de minimum 17 km. Certains élèves, dont leur capacité le permettront, feront quant à eux entre 2 et 5 km par heure. Robert Savard, IGL, Shawinigan.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
La Société de presse acadienne de la Nouvelle-Écosse veut faire un inventaire exhaustif des éditions papier et numériques du journal Le Courrier. Nicolas Jean, qui est l'actuel directeur général du Courrier, espère par ce projet préserver les archives de ce qu'il considère faire partie du patrimoine collectif de la province et rendre ces archives évidemment accessibles au grand public. Le Courrier, qui publie actuellement en format papier et numérique, est toujours le seul média francophone à être distribué à travers toute la Nouvelle-Écosse. Daniel Aucoin à Chéticamp en discute avec Nicolas Jean.
Nicolas Jean, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Parle-nous d'abord de l'importance de ce projet pour le journal Le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
C'est un projet qui a deux volets, je dirais. Un premier volet, c'est la conservation de tout l'inventaire papier des archives du Courrier qui se trouvent aujourd'hui à différents endroits. On en a une partie dans les anciens locaux du Courrier, on en a une partie au musée des Acadiens de Pubnico, on en a aussi une partie dans les archives publiques de Tasquette. On sait qu'elles sont là, on sait que le musée des Acadiens en a une très bonne partie. On pense qu'elle pourrait peut-être même être exhaustive, mais on n'en a pas la certitude. Puis on a aussi la question de dans quel état c'est. C'est la première chose. Donc l'objectif, ça va être d'extraire toutes ces archives papier, de les mettre dans un local sécurisé avec un air contrôlé pour pouvoir en faire un inventaire exhaustif. Ça, c'est le premier volet. Puis le deuxième volet, c'est une fois qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos archives numériques sont pleinement accessibles? Elles sont actuellement sur le site des archives de la Nouvelle-Écosse de 1937 à 2002. Et malheureusement, ça n'a pas été fait de façon à ce qu'on puisse faire une recherche ciblée dans ces archives. Donc on regarde actuellement des solutions modernes, peut-être même basées sur l'intelligence artificielle, qui permettraient de dédier un moteur de recherche à faire des recherches approfondies ou même des synthèses, des résumés de ce qui s'est dit ou de ce qui se disait dans le Courrier de la Nouvelle-Écosse sur certaines thématiques, par exemple.
Nicolas, est-ce qu'on peut dire que les archives du Courrier, c'est un bien patrimonial collectif précieux pour la communauté acadienne ici en Nouvelle-Écosse?
Complètement. C'est d'ailleurs comme ça que je le présente. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai défendu cette demande de financement auprès de Patrimoine. Ce que j'ai découvert en travaillant sur la question des archives, c'est que c'est vraiment, il y a presque un aspect politique aussi dans la question de la préservation des archives d'une communauté donnée. Ça a été beaucoup le cas, notamment si on regarde le combat pour les populations noires américaines pour réclamer le droit d'accès à leurs archives aux États-Unis. Il y a tout un mouvement qui est né à ce niveau-là. C'est moins un problème qu'on a en Nouvelle-Écosse parce qu'on a encore le contrôle sur ces archives. Mais ce qu'on veut, c'est qu'elles restent dans la communauté et que si on décide de préserver les archives physiques du Courrier, on veut que ça se fasse dans un lieu unique qui soit acadien, francophone, et parce qu'on veut en avoir la pleine maîtrise sur le long terme en termes de préservation et s'assurer qu'elles ne seront pas remises en cause.
Gabriel Jones, ethno-historien et consultant, accompagnera le Courrier tout au long de ce processus qui devrait permettre de sécuriser les archives de manière pérenne, mais aussi de les rendre plus accessibles à la communauté de manière digitale. Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chéticamp.
Voilà, c'est déjà tout pour nous à Point de vue. Merci à nos journalistes, Daniel Aucoin, Robert Savard, Alice Zanetta, James Olivier et Frédéric Lévesque. Frédéric, à qui on dit un grand merci d'avoir été avec nous ces dernières années et d'avoir relevé cet immense défi qu'est de produire pour sa radio CJTB et pour nous à Fréquence Info des reportages chaque semaine d'une région si reculée. Elle a démontré une grande capacité d'adaptation et surtout une grande imagination. Bravo et merci de nous avoir amener tous ces beaux sujets, dont celui d'aujourd'hui. Bon vent pour la suite, Frédéric, et à bientôt, qui sait. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale qui reste là, ne bouge pas. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'initiative de journalisme local. Ici Boris Chassagne qui vous remercie d'être là chaque semaine. À bientôt, ciao.
questions, commentaires ou suggestions, écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.